Ce matin, c'est quelque chose qui a trait à la remise en cause. La remise en cause. C'est difficile de se remettre en cause. Ça dépend pourquoi. Il y a des choses que l'on peut apprendre sans trop de difficultés, parce que ça ne remet pas justement trop en cause ce que nous sommes, ce que nous pensons, depuis parfois toujours. Par contre, il y a des choses qui sont collées à nous, qui sont presque devenues génétiques. Et la parole de Dieu donne l'image d'un métal avec des scories. Le seul moyen de détacher les scories du métal, c'est la fusion, c'est de chauffer. Et seulement là, ça peut se détacher, se décoller. Il y a des choses dans nos vies. Il faudra vraiment passer par des moments d'épreuve, de feu, pour que se détache ce qui fait partie de nous. Parce que nous n'acceptons pas forcément toujours de profondes remises en cause. Ça a été le travail des prophètes. Et ils ont souffert. Et leur message était difficilement accepté parce que leurs paroles remettez en cause. Alors, on va voir d'abord Pierre. Parce que Pierre, on le connaît bien. On sait qu'il est fougueux, qu'il a plein de force. Mais franchement, il a dû passer par de profondes remises en question. On le lit dans Marc, chapitre 14, verset 26. Marc, chapitre 14, verset 26. Marc 14, 26 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit : Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement : Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Pierre est fort. Il est certain, sûr de lui. Pourtant, c'est le Seigneur qui lui dit : Tu n'es pas fort. Cette nuit même, tu vas me renier. Mais il monte au-dessus du maître. Il reprend plus fortement. Il monte au-dessus de la parole de Jésus et il confirme : Mais non, tu te trompes. Même si je dois mourir avec toi, je mourrai. Alors ça, c'est nous. Dans notre nature, parfois nous sommes sûrs de nous, nous pensons que nous sommes forts, mais c'est pas comme ça qu'on va être formé pour être utile à servir Dieu et les autres. Alors vous savez ce qui se passe, on le lit dans Luc chapitre 22, versets 61 et 62, on lira quelques passages sur la vie de Pierre. Luc 22, verset 61. Luc 22, 61. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Et là, ça lui fait mal. Ça lui fait très mal parce qu'il était sincère. Il pensait vraiment qu'il serait fidèle jusqu'à la mort. Et là, il se rend compte du contraire. Dans la vie chrétienne, le Seigneur Jésus permettra que nous puissions être déçus de nous-mêmes. Et il est bon d'être déçu de soi-même. Des larmes amères, parce que quand on aime vraiment Dieu et qu'on n'est pas à la hauteur de ce que l'on a promis, de ce que l'on pensait être, ça nous brise. C'est la preuve quand même que Pierre aimait le Seigneur. Parce que de l'avoir renié comme il l'avait prévenu, ça l'a démoli. Il a pleuré. Mais c'est bon. C'est bon que, déçus de nous-mêmes, nous passions parfois des moments même de découragement. Des moments où on peut même se sentir indigne. Et se dire, après ce que j'ai fait. Après ce que j'ai fait, c'est fini pour moi. Parce que, comme Moïse, qui croyait dans sa jeunesse, réglant le compte de l'Égyptien, délivrer Israël, il a eu besoin des 40 années de Madian pour être humilié. Dieu ne se sert dans la Bible que de gens qui ont été humiliés. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Jean chapitre 21. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Vous avez remarqué, le Seigneur ne demande pas seulement s'il l'aime, mais plus que les autres. Est-ce que tu es vraiment mieux que les autres? C'est ça que ça veut dire. Toi qui disais, si tous t'abandonnent moi jusqu'à la mort, alors le Seigneur dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es mieux que les autres? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi, Dieu soit béni. Amen. Dans ce passage, comme Pierre a renié trois fois, Jésus lui demande trois fois de déclarer son amour. C'est pour le rétablir qu'il demande trois fois. Parce que nous croyons que aussi bas nous pouvons tomber, autant le Seigneur peut nous relever. Nous pouvons trois fois le renier et il nous permettra de trois fois lui dire « Je t'aime, tu sais que je t'aime ». Pourquoi est-il attristé au bout de la troisième fois? Certainement parce que cette troisième fois lui a fait rappeler que lui aussi il a renié trois fois. Mais parce qu'aussi dans le grec il y a un jeu de mots. Quand Jésus lui demande « Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » Il emploie le verbe philéo, agapéo, pardon, qui est vraiment le terme pour l'amour. Et Pierre lui répond, tu sais que je t'aime, philéo, qui est un terme pour l'amour, mais qui n'a quand même pas autant d'intensité. Et la troisième fois, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes, philéo ? Et là, Pierre vaincu, ah, tu sais que je t'aime. Mais que je ne t'aime pas plus que les autres. Je ne t'aime pas autant peut-être que je le pensais jusqu'à en mourir. Je t'aime, Seigneur, mais je suis humilié. Et le Seigneur Jésus lui confie ses brebis. Alléluia. C'est curieux que c'est quand il est tombé que le Seigneur l'ait relevé, que lui a été confié le peuple de Dieu. Je le répète, Dieu ne confie pas le soin des autres à des gens qui n'ont pas été humiliés. Il faut être humilié pour pouvoir servir Dieu et les autres. Dieu ne choisit pas des personnes plus compétentes que les autres. Dieu ne choisit pas des orateurs particuliers. Dieu choisit des gens qui se seront laissés travailler, façonnés et dans l'humiliation auront appris des choses plus profondes. Actes chapitre 10, versets 9 à 28, si vous voulez bien. On continue dans la vie de Pierre. Actes 10, verset 9. Actes 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier, environ midi. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à, là aussi, trois fois. Curieux, hein? Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen. » Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. C'est énorme pour Pierre. C'est énorme d'aller manger chez des païens. Nous, on ne le comprend pas bien, on n'a pas cette culture. C'est énorme pour lui d'aller manger chez des non-juifs. Et Dieu lui montre trois fois cette nappe. Il réfléchit au sens de la vision. Personne ne lui explique. Personne. Un ange ne lui dit rien. Un homme ne lui explique pas. Personne ne lui explique la vision. Mais il réfléchit au sens de la vision. Les hommes envoyés par Corneille arrivent, les païens. Ils toquent. L'Esprit dit « Va ». Et là, comme le cœur de Pierre a été humilié et qu'il est malléable, il n'a pas besoin qu'on lui explique le sens de la vision, il comprend. Même si c'est énorme pour lui, il comprend que cette vision concerne les païens. Il descend. Déjà, il les accepte chez lui. Il les loge. Il va chez les païens. Et là, la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit qui descend. Parce que Pierre a accepté d'apprendre de Dieu quelque chose qui était énorme pour lui. C'était infranchissable dans sa conscience. Il y a des choses qui sont pour nous actuellement, on est dans l'impossibilité de les comprendre. Nous ne pourrons ne les apprendre que de Dieu. Mais si, comme Pierre, d'abord, nous avons accepté ce chemin de l'humiliation, et Dieu bénit ceux qui apprennent de lui. L'Esprit de Dieu est tombé sur tout le monde. Ça a été vraiment un moment exceptionnel. Mais parce que Pierre a accepté d'apprendre autre chose que ce qu'il croyait depuis qu'il était enfant, que sa religion lui avait inculqué profondément. Dans Galates chapitre 2, versets 11 à 21, on va voir encore un autre épisode de Pierre. Galates chapitre 2, verset 11. Galates 2, verset 11 à 21. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. Donc Céphas, c'est Pierre, hein, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Alors, et ensuite, il explique que c'est par la grâce hein, que nous sommes justifiés. Verset 20, on va pour écourter la lecture, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Un autre épisode. Pourtant, Dieu lui a montré trois fois cette vision. Il la comprend. Il va chez Corneille. Dieu lui montre qu'il ne s'est pas trompé en remplissant de l'esprit les païens. Donc, il l'a vu en vision, il l'a appris de Dieu, il en a eu la confirmation par la visitation de l'esprit. Mais des années plus tard, quand même, d'un coup, face aux autres juifs, il ne mange plus avec les païens. Et les juifs arrivent, « Oh, ils vont me voir manger avec les païens. Je sais, le Seigneur me l'a montré, je peux le faire, mais eux, ils ne vont pas le comprendre. Oh » Et ils dissimulent. Et heureusement, Paul est intervenu, parce que là, c'était une question très importante qui touchait au salut. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont tellement attachées à nous que nous avons besoin de les apprendre de Dieu, mais même quand on les apprend de Dieu, on peut encore avoir de vieux réflexes. Parce que c'est difficile pour nous de lâcher vraiment et de désapprendre. De désapprendre ce que l'on nous a inculqué. Quelle humilité de la part de l'apôtre Pierre. Et nous verrons maintenant dans un dernier texte que ça ne va rien entamer dans les relations et l'estime qu'il avait pour Paul. Il se laisse reprendre. Pierre, on le voit souvent comme un homme fougueux, mais quand on relit ses épîtres, il a vraiment changé. Et là, il accepte que Paul le reprenne devant les autres frères. Alors lisons dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. 2 Pierre 3, 15 et 16. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. C'est beau ça. Ça, il l'écrit après ce qui s'est passé, ce qu'on a lu. Comme votre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles, c'est vrai, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Amen. C'est un beau passage, vous ne trouvez pas ? D'estime entre serviteurs de Dieu. Où Paul, Pierre, dit du bien de Paul. Après avoir été repris par lui. En reconnaissant que Paul, c'est pas Pierre. Il dit, c'est vrai, quand il écrit, quand il enseigne, alors, je paraphrase, c'est pas comme moi, c'est plus compliqué. Oui, quand il parle de choses compliquées. Mais il n'en profite pas pour dire, vous savez, il est trop compliqué, des fois il va trop loin. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il ne dit pas vraiment comme moi je dis ou il n'enseigne pas tout à fait ce que j'enseigne. Non, il dit. Mais les gens qui utilisent ce que Paul dit pour le retourner contre lui ou d'autres, c'est parce qu'ils sont ignorants, mal affermis, ils tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Incroyable. Pierre estime que ce que Paul enseigne et écrit est comparable à l'Ancien Testament. Hein, tordent le sens comme celui des autres Écritures. Pour l'apôtre Pierre, ce que Paul enseigne, c'est l'Écriture. C'est magnifique. Ce respect entre serviteurs de Dieu, malgré leurs différences, et surtout pour Pierre, bien que Paul, à un moment donné, ait dû lui tenir tête, Pierre a su vraiment accepter ça et continuer d'aimer l'apôtre Paul. C'est un bel exemple, ne trouvez-vous pas ? Quand on prend le Nouveau Testament et qu'on lit les différentes épîtres, sincèrement, parfois, des auteurs du Nouveau Testament prennent le même passage pour dire des choses différentes. Jacques, par exemple, utilise la vie d'Abraham pour parler des œuvres. Paul, dans Romains 4, utilise la vie d'Abraham pour parler de la foi. Et si l'on est mal intentionné, on pourrait dire, Jacques et Paul se contredisent. Ils ne se contredisent pas, ça se complète. Et en réalité, il faut être bien disposé. Je crois qu'il faut avoir de l'estime pour tous les ministères et considérer que chacun a reçu de Dieu quelque chose qui peut être différent et apprécier dans le Seigneur les dons de Christ. Amen. Ça, c'est important. Là, moi, je dis, Pierre, il a été humilié, il a appris de Dieu. Il s'est laissé reprendre et à la fin, il fait les éloges de Paul, parlant de la sagesse que Dieu lui a donnée, de ce qu'il écrit comparable aux autres Écritures. Je trouve que le respect que Pierre avait pour Paul est admirable. Alors, nous parlions de Paul. On va lire dans Actes chapitre 9, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Actes chapitre 9, versets 1 à 5. Actes chapitre 9, verset 1er. Parce que est-ce que ce n'est que Pierre ? On verra succinctement au combien Paul aussi a été profondément remis en cause. Actes 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Amen. » Là aussi, pour l'apôtre Paul, c'est énorme sa conversion. Alors, il y a un point commun avec Pierre. Pierre était fort. Ici, Paul même était violent, respirant la menace et le meurtre. Deux apôtres importants, Paul et Pierre. Le troisième, qui est bien connu, c'est Jean. Vous vous rappelez comment on l'appelait ? Le fils du tonnerre. Mais ni Paul, ni Pierre, ni Jean ne pouvaient servir Dieu en restant ce qu'ils étaient. Dieu les avait appelés. Dans leur caractère de départ, tout n'était pas mauvais parce qu'il y avait un zèle pour le Seigneur, une consécration, un amour, ça c'est vrai, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des choses mauvaises, de l'homme, de la chair, de la violence, de l'assurance, mal placée, de l'impatience. Et Jésus qui lui apparaît lui dit « ce serait dur de regimber contre les aiguillons ». Parce qu'il avait assisté au meurtre d'Étienne, il avait joint son suffrage, et certainement que depuis, il était piqué par l'aiguillon, il était travaillé. Et en fait, plus il était dans la persécution, dans la violence, en fait c'était une fuite en avant, plus il était travaillé. Mais c'était trop énorme pour lui. C'est écrit ici dans ce passage, il poursuivait ceux de la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine, une hérésie, quelque chose de nouveau, de différent. Et il ne supportait pas, il fallait qu'il tue cela dans l'œuf. C'était si énorme qu'il a fallu que le Seigneur Jésus apparaisse lui-même à celui qui deviendra l'apôtre Paul. Alors on va lire maintenant dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 9. Pour voir le chemin qu'il a parcouru. Philippiens 3, versets 1 à 9. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Non, j'ai dit... Oui, mais on va lire... Oui. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Oui, pourquoi je l'ai pris dès là ? Parce que prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On va continuer, mais pourquoi j'ai commencé, même avec hésitation, ce chapitre ? Je crois qu'on lit ça, mais on ne mesure pas. Il parle des Juifs, ses compatriotes. Il dit « mauvais ouvrier, faux circoncis ». Parce que les Juifs sont circoncis dans la chair, mais c'est les faux circoncis. Les vrais circoncis, c'est nous les chrétiens qui ont la circoncision de l'esprit. Mais vous rendez compte ce qu'il note là ? S'il n'était pas juif, on dirait de lui que c'est un antisémite. Mais il était juif. Et vous savez ce qu'il dit aux Romains ? « Je suis toujours triste à cause de mon peuple ». J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Donc Paul aimait profondément les Juifs. Mais Dieu l'a tellement changé dans son état d'esprit qu'il est capable de dire « ce sont des faux circoncis ». Et il continue. Verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » C'est-à-dire dans la religion juive qui pratiquait la circoncision dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, donc le meilleur parti religieux juif, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi toute ma vie, des gains, des trésors. Je les ai regardés, littéralement, on pourrait traduire comme une ordure, un déchet, une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. C'est superbe, le chemin qu'il a pu faire. Dieu a choisi un persécuteur pour faire de lui l'apôtre de ceux qu'il persécutait, et même pour faire l'apôtre des païens. S'il y en avait un qui n'était pas du tout fait pour les païens, c'était Paul, Saul de Tarse. S'il y en avait un qui n'avait pas de bonne disposition, c'était lui. Mais quel chemin n'a-t-il pas fait ? Amen. Vous savez, le Seigneur veut encore beaucoup changer de choses dans nos cœurs, dans nos vies. Mais est-ce que comme Pierre, comme Paul, nous accepterons d'apprendre, de recevoir, d'être changés par lui, comme lui le veut. Amen. Il y a des choses qui sont dans nos idées, mais est-ce que c'est la pensée du Seigneur? Est-ce que c'est ce que Dieu veut dans notre vie? Pour continuer avec Paul rapidement, j'étais surpris de découvrir qu'avec les Corinthiens, Paul parle beaucoup de la faiblesse, beaucoup. Et parce que les Corinthiens aimaient ce qui était fort, c'était des Grecs. Les Grecs aimaient la beauté et la force. Nous aussi, société occidentale, nous sommes héritiers des Grecs. Nous aimons aussi la beauté et la force. Et l'apôtre Paul leur parle beaucoup à ces Corinthiens de faiblesse. C'est curieux. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Voilà ce qui est dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu ne se sert pas des forts, il se sert des faibles. Et ça, c'est aux antipodes de notre conception. Dieu n'utilise pas ce qui est fort, Dieu utilise ce qui est faible. On continue. Chapitre 2, verset 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Vous voyez, là aussi, c'est un peu comme Pierre, il est l'apôtre des païens. Le Seigneur l'a visité, mais la culture grecque n'est vraiment pas son milieu naturel. Et en Grèce, il vivait mal, il était faible, tremblant, il était dans une position de vulnérabilité. Mais Dieu l'a utilisé d'une belle façon chez les Corinthiens. Alléluia. Continuons, chapitre 4, verset 10. Il est dit, « Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Les Corinthiens aimaient vraiment la force, l'honneur et la victoire. Et Paul dit, « Mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés. Mais nous, apôtres, on est humiliés, méprisés, faibles. » L'apôtre Paul, ici, use d'ironie pour bien nous montrer que nous ne devons pas essayer d'être forts par des appuis humains, mais plutôt d'accepter la faiblesse dans notre vie. Chapitre 9, verset 22, il est dit que « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. » On méprise les faibles. La nature humaine méprise les faibles, mais Paul en avait soin. Il faut avoir une certaine humilité pour s'occuper des petites gens, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 10:10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Ça m'a toujours étonné, ça. Les chrétiens de Corinthe trouvaient que Paul était un mauvais prédicateur. Ça m'a toujours étonné. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Enfin, peut-être vrai, selon des critères humains, selon des critères corinthiens, selon des critères grecs, selon des critères de beauté et de force, de talent oratoire, mais pas selon Dieu. On trouvait qu'on le méprisait. Savez-vous ce que Paul veut dire, certainement? Oui, je l'ai entendu, ça veut dire petit. Petit. Dieu utilisait un petit. Un petit pour faire son œuvre. Et nous, souvent, on imagine les hommes de Dieu selon notre avancement spirituel. Alors, souvent, quand on est jeune converti, on imagine Paul un homme d'autorité, un homme fort, un homme qui en impose. Mais en réalité, à Corinthe, on disait de lui, pas terrible, pas terrible, pas fameux. Et c'est quand même celui qui a écrit l'enseignement le plus complet dans l'Ancien Testament sur le salut chrétien. Alors, voilà. Je pense qu'il est important, quel que soit le messager, d'être disposé. Chapitre 12, versets 9 et 10. Et les Corinthiens auraient préféré certainement quelqu'un qui corresponde à leurs critères grecs. Chapitre 12, verset 9. Verset 8. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi, alors ça, j'en suis pas encore là personnellement, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand j'ai pas d'appui humain, quand je suis pas dans une situation favorable, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort de la vraie force, de celle de Dieu. Amen. C'est magnifique. Je n'en suis pas là. Je n'aime pas sentir ma faiblesse. Je n'aime pas sentir mes difficultés. Mais c'est parce que je n'ai pas encore suffisamment compris ce que je vous prêche. Dieu utilise les choses faibles. Amen. Et nous avons besoin de comprendre que dans des moments de notre vie, des moments où nos repères tombent, des moments où on ne se sent pas bien, des moments où on peut être découragé, des moments où on est comme dans le désert, des moments de grande faiblesse, il y a là quelque chose à apprendre de fondamental, c'est de s'appuyer sur le Seigneur, de trouver en lui toutes nos forces, de trouver en lui toute la sagesse dont nous avons besoin et de lui dire, Seigneur, là, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je t'en prie, passe devant moi. Passe devant moi, ferai-moi le chemin, je serai derrière toi. Amen. Oui. Vous passez peut-être, bien-aimé, pour quelques-uns d'entre vous, des moments bien difficiles. Des moments, peut-être, où vous êtes déboussolé. Mais je vais peut-être vous étonner. C'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Dieu est en train de vous amener là où il vous est impossible d'y arriver si vous ne perdez pas justement votre force. Pour comprendre certaines choses, il faut que ce soit plus fort que nous. Amen. Et quand on est faible, parce que Dieu est plus fort que nous, alors nous pouvons peut-être accepter d'apprendre ce que de toutes les façons, sans cette humiliation, nous ne voudrons jamais apprendre. Amen. Hein, l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ce qui nous manque, bien-aimés, ne trouvez-vous pas, c'est dans des moments difficiles d'avoir la foi. Après que Jésus ait calmé la tempête, vous savez ce que le Seigneur leur a dit ? Où est votre foi ? Où est votre foi ? Nous, on est fort pour défoncer les portes ouvertes. Mais quand les portes sont solides et difficiles, croire jusqu'à ce qu'elles cèdent, c'est compliqué pour nous. Vous ne trouvez pas qu'on est vite lunatique, qu'on change vite d'avis, selon qu'on a, parce qu'on a très vite peur, en fait. Très vite peur. Et quand dans notre faiblesse, on s'appuie sur le Seigneur, je vous assure, on sent qu'on est porté. Et c'est différent, on n'est plus porté par notre volonté. On est porté par le Seigneur. Et pourtant, on n'est pas porté, comment vous exprimez cela ? On n'est pas porté en ayant le sentiment, comme on est porté, ça y est, de redevenir fort. Non, on est comme porté malgré nous. On est comme porté en étant toujours faible. Mais il nous tient. Alléluia. Et il nous conduit. Béni soit son nom. Allez, je termine avec Marc chapitre 8, avant que notre frère Frédéric ne nous conduise dans un champ pour la scène. Marc 8, verset 22. Je termine avec ça. Marc 8, 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. Amen. » Je termine avec cette guérison en deux temps. Comme je le disais, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il doit y avoir des remises en cause dans nos vies dont on n'est même pas conscient. Le Seigneur nous ouvre les yeux sur certaines choses, mais ce n'est pas encore assez, ce n'est pas suffisant. Alors il y revient une seconde fois pour que la vue soit plus claire. Amen. Vous savez, quand nous étions inconvertis, nous étions aveugles. La conversion nous a rendu la vue. Mais je crois que tout au long de notre vie, le Seigneur va continuer de nous permettre de mieux voir. Amen. Et il s'y reprendra. Pas qu'une fois, ni même deux fois, mais plusieurs fois. Alors, voulez-vous accepter d'apprendre, de vous remettre en cause pour changer ? Parce que si vous restez sûr de vous, violent, orgueilleux, que sais-je encore, le Seigneur ne pourra pas faire son œuvre avec vous et avec moi. Le Seigneur n'utilise que des instruments affaiblis, humiliés, qui apprennent à trouver en Dieu leur appui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.